Cette semaine, je vous propose de parler d'autonomie, une autonomie douce. On a déjà fait des émissions sur le sujet. On n'est pas très loin de chez Orphée, que vous avez découvert la semaine dernière avec ses fleurs et avec le collectif de la fleur française. On est aujourd'hui chez Sandy Motion. Bonjour.
Bonjour.
Tu fais beaucoup de choses, on a un petit peu parlé avant. Tu fais de la vannerie, tu fais de la tannerie, tout ça de manière très naturelle. Tu fais de la cueillette, tu proposes des cueillettes sauvages, tu es prof de yoga. Voilà, et tout ça, ça fait des personnages en général que j'aime bien présenter à l'ours et à la carotte, puisque ce sont des gens comme toi qui cherchent à vivre autrement et qui parfois trouvent des choses. Je vois qu'à côté de nous, il y a pas mal de branches d'osier, je suppose, ou de saules. On va parler peut-être vannerie. C'est comme ça que ton rapport à l'autonomie et à la nature a commencé. C'est un lien ancien chez toi?
J'ai commencé mon lien avec la nature en passant le brevet d'état d'accompagnateur en montagne. Où au début, j'accompagnais les gens en montagne de façon plutôt sportive. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que c'était plus pour moi suffisant. Et je me suis tournée un peu vers la nature, à la fois les oiseaux, les chants d'oiseaux et en même temps les plantes. Et essayer de voir comment ces plantes qui nous entourent peuvent nous servir dans notre quotidien. Donc la vannerie, ça fait partie d'une des façons dont j'ai pu utiliser ces plantes et dont j'ai essayé de transmettre l'utilisation aux gens qui venaient avec moi.
Alors toi, t'en fais quoi? Donc c'est de l'osier que tu récupères du sol?
Alors tout ce qu'il y a là, c'est des, y a des saules, il y a des noisetiers, il y a du cornouiller. C'est des plantes que j'utilise pour faire des paniers, mais pas que en fait. C'est vraiment pour faire toutes sortes d'objets. Et toutes les chutes, je les utilise pour faire des petites rambardes.
Ouais, ce qu'on appelle des plessis. On met pour faire des bordures de jardin ou pour mettre de la terre dedans, pour faire des carrés jardins. Ok, ça ce sont les chutes en fait de ce que tu fais en travail.
Voilà, c'est pour éviter de les brûler, ouais. Et de faire de la fumée. En fait, ben nous, on s'en sert vraiment pour faire nos haies.
Okay.
Tout ce que je ne vais pas pouvoir utiliser. Ou des fois, il y a des saules qui sont un peu tachés. Ou les noisetiers, une fois qu'ils sont un peu trop secs, on ne peut plus tirer les fines lamelles qui servent à faire les paniers. Et dans ces cas-là, ben, au lieu de les soit je les ramène dans la forêt, soit je les utilise.
Donc la vannerie, tu en fais quoi? Donc des paniers, tu viens de le dire.
Alors là, en ce moment, par exemple, je récupère l'écorce des tiges, ça peut être du saule, par exemple. Avec les écorces, on peut en faire des chapeaux, on peut en faire des sacoches. Et c'est au fil des saisons, essayer de voir, ben, y a des saisons où on va pouvoir utiliser l'écorce, d'autres où on va utiliser le feuillage. En fin d'été, ça va plutôt être le feuillage et les joncs. Ben, à l'automne, ça sera plutôt le noisetier pour faire les paniers. Et en fonction des saisons, ben, essayer d'adapter sa vannerie, de faire une vannerie paysanne quoi, au fil des saisons.
Okay. Ça t'est venu comment, cette envie?
Bizarrement. Hein. Petit à petit, par curiosité. Je pense que c'est vraiment la curiosité tout au long de ma vie là, qui m'a amené dans des univers à la fois complètement différents et en même temps qui se rejoignent. Comme le tannage, la vanne.
J'allais dire, on va passer du végétal à l'animal. Qu'est-ce qui t'a pris aussi de vouloir faire du tannage?
Eh bien, je pense que c'est surtout quand je suis tombée enceinte. Où
alors, le tannage, on va rappeler. Hein. Ouais, c'est le fait de prendre une peau d'animal et de la transformer en cuir.
En fait, c'est moi, quand j'ai vu la peau de mon ventre qui changeait, je me suis dit que la peau, c'était quand même quelque chose de magique qui nous accompagne tous les jours. Et après, je me suis dit, ben oui, les anciens, en fait, ils utilisaient vraiment ces peaux-là, pas les nôtres, hein, mais les peaux des animaux pour faire toutes sortes de choses. Et j'ai voulu essayer. Donc j'ai demandé à des paysans s'ils pouvaient me prêter des peaux plutôt que de les jeter, parce que maintenant c'est vrai qu'on a tendance à les jeter. Et j'ai essayé de les transformer. Alors au début, il y a eu pas mal d'échecs. Et petit à petit, j'ai réussi à trouver une méthode qui me permettait, sans utiliser de produits chimiques, de les transformer pour pouvoir les utiliser pour des instruments à percussion. Alors moi, ce qui se passe, c'est que quand s'il y a quelqu'un qui veut faire un instrument de musique, il m'appelle et il vient à la maison. Moi, j'ai la peau, soit il la tanne avec moi, d'accord, soit j'ai déjà tanné la peau et on fabrique l'instrument ensemble.
D'accord.
Voilà, je trouve qu'au moins, il y a vraiment un autre rapport qui se crée avec l'instrument. Et pour moi, c'est ça, c'est le plus important, quoi. Plutôt que de fabriquer des instruments à la chaîne et qui n'ont pas forcément de vie derrière.
Alors, tu utilises quoi, c'est quoi comme peau que tu utilises comme animaux?
Alors, ça peut être des peaux de daim, des peaux de biche, de cerf.
Donc, tes copines avec les chasseurs du coin?
Entre autres. Voilà.
C'est bien ça de relier qu'être écologiste et faire quand même le lien avec les chasseurs, c'est très bien.
Ben moi, j'ai trouvé ça génial parce que c'est souvent assez clivé. Il y a les écolos d'un côté et les chasseurs de l'autre. Et en fait, on utilise la même nature. Et c'est réussir à discuter ensemble. Et finalement, en fait, il y a plein de secteurs sur lesquels tout va bien, quoi.
Si on n'écoute pas trop ce qu'on nous dit de penser et comment voir les autres, il suffit de discuter, on se trouve des points communs.
Ouais, complètement. Moi, j'ai, en fait, à la fois, c'était très riche au niveau apprentissage de la peau, mais socialement aussi beaucoup. Moi, ça m'a changé beaucoup ça m'a changé un regard sur l'univers de la chasse, quoi. Et j'ai d'ailleurs été contactée à Montpellier pour faire une conférence sur l'euthanage par la Fédération de chasse. Et pour moi, c'était un vrai cadeau.
Super. J'aime bien, en effet. C'est un vrai cadeau pour les auditeurs aussi. Parlez autour de vous, vous verrez que parfois les barrières qu'on essaie de mettre entre nous n'existent pas. Donc on est aussi entouré de pas mal de végétales ici. Tu fais aussi ces cueillettes. Qu'est-ce que tu proposes aux gens de manger, de se soigner, de les deux?
Alors moi, mon but, c'est pas de dire aux gens il faut faire ça, c'est vraiment de rendre les gens autonomes par rapport à l'utilisation des végétaux, par rapport à la reconnaissance des végétaux. Quand on approche un peu le milieu de la botanique, on a l'impression que c'est très austère et très compliqué. Et en fait, c'est rendre tout ça beaucoup plus simple en essayant de se limiter à quelques végétaux qui vont pouvoir nous servir à manger, à se soigner, à faire une petite pharmacie pour des petits bobos, hein, bien sûr, mais en tout cas, c'est regarder différemment les plantes qu'on a vraiment dans notre jardin, les rendre extraordinaires, tout ce qui est ordinaire, quoi.
Oui, parce que souvent elles le sont, hein, ce que les gens voient comme une mauvaise herbe qui pousse en travers de leur chemin, ça peut être une plante qui sert.
Ouais, mais complètement, rien que la pâquerette en fait. La pâquerette, en fait, quand on fait des balades, les gens, je la présente, on dit bon, c'est la pâquerette. Mais oui, mais est-ce qu'on a vraiment regardé de près la pâquerette? La pâquerette, c'est un monde merveilleux quand on la regarde de près. Si on a la chance d'avoir une petite loupe ou si on y met vraiment, on colle l'œil, on peut l'utiliser au niveau médicinal, on peut l'utiliser
Ah
au
ouais,
niveau
sert à quoi la
culinaire.
pâquerette? J'avais jamais entendu parler.
La pâquerette, elle va servir, elle va être très chauffante. On peut s'en faire des soupes, en fait, ça va ramener un petit peu de chaleur. C'est une plante qu'on va pouvoir utiliser aussi parce qu'elle est vulnéraire. On peut s'en faire un macérat huileux et tu vas pouvoir t'en servir comme l'arnica. Voilà, tu vas pouvoir t'en servir aussi ben justement quand tu as un ventre qui devient un peu gros, voire très gros quand tu es enceinte, ça va t'éviter les vergetures.
D'accord.
Mêlée aux fleurs de soucis, là, ça fait un très bon complexe. Et après, c'est vrai que tu peux vraiment la manger au quotidien, tu es sûr que tu en as toujours dans le jardin, enfin presque toute l'année, quoi.
Au printemps surtout.
Voilà, au printemps, ouais. Et après, ben voilà, on a le pissenlit, on a le plantain, il y a des.
Alors toi, au quotidien, comment ça se passe? Tu manges beaucoup de plantes de ton jardin, de plantes sauvages cultivées? Comment? Parce qu'il y a une partie potager, là il y a les fraisiers, il y a le potager qui va bientôt, qui attend d'accueillir pas mal, qui a déjà des plantes, qui va en avoir d'autres, on le voit. Mais toi, au quotidien, ça se passe comment avec les plantes?
Alors moi, la première chose que je fais le matin quand je me réveille, c'est que je me pose un peu la question de comment je me sens au niveau du ventre, au niveau de la tête, au niveau de l'énergie. Et en fonction de mes ressentis, bah, je vais dehors et je me fais ma petite cueillette pour me préparer ma tisane du matin. Comme ça, je me fais mon petit check. Ça me permet de voir un petit peu l'ambiance dans laquelle je me trouve et d'anticiper un petit peu ma journée, vite fait, hein, sans cérémonie. Mais voilà, et je prends quand même comme ça contact le matin avec les plantes du jardin, alors pas du potager, mais vraiment les plantes sauvages.
Alors je vois pas d'ortie, c'est parce que tu les manges toutes.
Alors ouais, l'ortie surtout.
Parce que c'est vrai que là vraiment on est dans une zone où il devrait y en avoir et j'en vois pas chez toi. Ça veut dire
C'est
que
vrai? Ah si,
tu en manges beaucoup.
ouais, si tu regardes bien, il y en a quand même un peu partout. Après, c'est vrai qu'on a fait un peu le vide, mais il y en a toujours un petit peu sur le côté. Et c'est une plante que j'utilise beaucoup, mais qui a une constitution asséchante. Et j'ai un terrain assez asséchant, assez sec. Et du coup, je vais plutôt utiliser, je vais l'utiliser un petit peu, mais accompagné de plantes qui vont ramener un peu d'humidité.
D'accord. Où c'est qu'on revoit ce genre de savoir sur le sec, l'humidité? C'est dans des ouvrages que tu as lu quand même ça?
Moi, je suis en formation en herboristerie et une herboristerie où on s'intéresse au côté un peu médecine chinoise et où je trouve vraiment intéressante l'approche parce qu'il va y avoir On va étudier la constitution des plantes et on va étudier sa propre constitution. Et quand je fais une balade avec les gens, moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est que les gens eux-mêmes apprennent à se connaître pour pouvoir aller vers les plantes qui leur sont adaptées. Chaque personne va avoir une constitution qui lui appartient, mais on ne va pas tous avoir besoin de la même. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, si on a la toux, si on est un peu pris au niveau des voies ORL, on ne va pas tous se diriger vers le thym, par exemple.
Ouais, le thym, c'est bon pour certaines personnes, mais pas pour toutes.
Exactement, voilà, c'est ça.
Nous sommes de retour avec Sandy. Sandy, on l'a à peine évoqué. On va essayer d'aller voir un petit peu voir en vrai tout ce que tu fais. Donc tu fais de la vannerie, tu fais des tannages de peau pour faire des instruments de musique. Tu vis avec les plantes de ton jardin. Tu apprends aux autres à faire du yoga, en particulier des personnes âgées. Tu fais donc des balades avec les plantes pour découvrir les plantes d'un point de vue culinaire et cosmétique et se soigner, c'est ça ?
Oui, médicinal. Moi, le but, c'est d'amener les gens et de voir. Alors évidemment, moi, j'explique un petit peu, mais le but, c'est qu'après, les gens, ils vérifient par eux-mêmes. Et puis, en fonction de s'ils ont des pathologies, vérifier s'il y a des contre-indications, en sachant que moi, je ne connais pas toutes les contre-indications de toutes les plantes. Donc c'est vraiment après chaque balade, moi ce que je conseille c'est de vérifier par soi-même, et de vérifier par soi-même ça permet d'être un peu plus sûr de soi pour l'utilisation. Au niveau culinaire par exemple, je fais plus d'ateliers culinaires parce qu'il y a un petit flou juridique au niveau de la responsabilité. Il y a beaucoup de gens qui présentent des allergies et moi ce que je fais c'est qu'on parle du côté culinaire, du côté sensoriel, vraiment le petit goût. Des fois on peut avoir la feuille en bouche pour ceux qui le veulent, mais par contre la cuisine je la fais plus faire avec les gens.
C'est l'industriel qui a gagné, qui a mis en place des normes pour que finalement des choses qui sont mauvaises pour la santé mais standardisées remplacent des choses uniques comme ça.
Mais voilà, disons qu'après on a toujours un petit peu la peur de se retrouver devant des flous et d'être remis en cause et c'est vrai que maintenant il y a pas mal de gens qui présentent des allergies et on ne sait plus trop à où s'en tenir quoi.
Tu me fais goûter quand même quelque chose avant qu'on rentre, aller voir la vannerie, quelque chose que je connaîtrais pas ou qui est très classique et que j'ai jamais goûté. Non, ça, c'est une aquilée.
Oui.
Tu la manges?
Ouais, tu peux, ouais, en salade. Ce qui est intéressant, c'est de goûter des plantes qui ont vraiment des saveurs complètement différentes.
Elle a un peu d'amertume,
ouais,
j'aime bien.
C'est ça.
Mais elle est bonne. Elle reste douce quand même, c'est marrant.
Il y a de l'amertume et du coup, bah, ça c'est pareil, on va le travailler. Vous voyez, ça veut dire que c'est une plante qui a une constitution amère. Mmh. C'est une plante qui va être asséchante.
D'accord. Ça fait maigrir.
Non.
C'est dommage, parce que je suis pas enceinte, mais j'ai quand même la peau qui s'est un peu tendue sur le ventre ces dernières années. Dommage, sinon je...
Ça va être une plante qui va resserrer les tissus, c'est une plante qui est astringente.
D'accord.
Et tout ce qui est astringent, ça va faciliter la circulation sanguine, ça va faciliter la circulation lymphatique aussi, donc ça peut aider à éliminer,
okay.
Bon, mais... Voilà. Mais voilà.
Bon, très bien. Qu'est-ce que tu aurais alors pour brûler ma graisse?
Pour brûler ta graisse... Ben, je pense que si tu manges que des plantes, c'est déjà ça va aider. Mais ouais, juste rien déjà un petit drainage.
Les fleurs de sauge officinales sont très bonnes, oui, en effet.
Ouais.
Elle m'a donné une fleur pendant qu'on parlait. Toi, je les avais jamais mangées.
En rouleau de printemps, ça réveille les papilles.
C'est très bon. Tu vois, parce que c'est vrai qu'on en a de la sauge officinale, donc la vraie sauge, celle qui est un peu duveteuse et gris argentée, qui sert normalement de sécher pour des tisanes. Mais j'avais jamais osé goûter les fleurs qui sont bonnes. Bon, mais très bien.
Moi, je m'en sers un peu pour purifier le lieu, pour nettoyer un petit peu. Voilà. Mais et c'est vrai qu'au niveau culinaire, c'est très très fort. Mmh. Et on aime ou on n'aime pas. Mmh. Et après, comme on disait tout à l'heure, il y avait une vieille. On disait qui a de la sauge dans son jardin n'a pas besoin de médecin. Mmh. Ben, en fait, suivant ta constitution, ça peut être super intéressant, mais ou pas, quoi.
D'accord. Mmh. Bon, après les fraisiers, ça, je te les laisse, je connais. Tu as de belles fraises, disons. Alors, tu vas nous montrer, tu as un atelier, du coup, dans ta maison. Alors, la maison, on n'en a pas parlé, mais ton chéri est charpentier. Donc là, on est évidemment, la maison aurait pu donner aussi lieu à une émission, puisqu'on est sur une...
Là, une technique, une maison en paille avec la technique grêbe.
D'accord. C'est quoi la technique grêbe ?
Technique grêbe, c'est qu'il y a une ossature principale, une ossature secondaire, et à l'intérieur, des bottes de paille qui sont mises sur champ. Et de chaque côté, un coffrage avec un mélange ciment chaud sûr.
D'accord. Et le tout bardé de bois. Et en plus, pas du bardage régulier. C'est vraiment c'est une très grande cabane, mais il y a cet esprit qui est vraiment très chouette.
Voilà.
Et tu es bien dedans.
Ouais, par contre, ouais, on est super bien dedans, ça c'est clair.
Là, tu as une petite serre.
Ouais, où je fais sécher les écorces.
Ah, je croyais que c'était des pots en l'air, mais en fait, c'est... là, tu fais sécher tes écorces.
Là, en fait, j'ai...
C'est des rouleaux, en fait, accrochés à des fils, accrochés au plafond.
Ouais, en fait, c'est ça. Là, c'est la période où il y a la montée de sève. Donc, en fait, je fends les tiges dans la longueur et après, je récupère l'écorce que je roule en sens inverse pour qu'elle reste droite. Et après, je découpe des fines lamelles de ces écorces-là pour pouvoir fabriquer ce qu'on disait tout à l'heure, des sacoches ou des chapeaux ou tout autre objet.
C'est un peu plus épais, quoi.
Alors, tu peux découper des grandes lamelles ou des beaucoup plus fines. Et c'est vrai que ça c'est juste de la magie, quoi. C'est un peu comme la peau des bêtes. On se rend compte qu'on peut faire plein de choses avec. C'est super intéressant. Et c'est vrai, on le voit très peu utilisé ici, aujourd'hui.
Complètement. Et tu crois que ça se faisait, c'est un savoir ancien, c'est des choses qui se faisaient ici?
Ici, je sais pas trop.
Ici, en France?
Ouais, en France, alors il y avait certaines... En fait, la vannerie, ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction des régions, il y a des savoirs qui sont complètement différents, d'autres qui se rejoignent. Mais c'est vrai que le côté écorce, en tout cas, dans notre région-là, je n'ai jamais trop vu...
Je vois d'autres plantes qui sèchent dans ta petite serre.
C'est la fumeterre. La fumeterre que j'ai récupérée, justement, je ne l'ai jamais trop utilisée et je voulais goûter son amertume. Et elle va être utilisée pour le foie, pour drainer un petit peu le foie. Et à côté, l'aubépine. L'aubépine pour calmer un peu le système nerveux.
C'est les fleurs que tu utilises?
Les fleurs et les feuilles. Et
pour calmer le système nerveux?
Ouais, pour rééquilibrer le système nerveux. Moi qui ai un système nerveux qui est assez... je suis un petit peu tonique, mais des fois un petit peu trop. Et l'aubépine me sert justement dans mon quotidien.
Ok. Ça, je connais. Ça doit être un rhizome.
C'est la patate douce.
C'est
ça. Ouais, on est en train d'essayer de se tenter la patate douce.
Tu veux la tenter à l'intérieur?
On va la mettre dehors, mais ouais, on attendait un peu que les cinglas soient passés là.
Ouais. Alors là, on rentre dans le garage.
Ouais,
il y a encore, t'as encore des trucs en train de sécher.
Ça, c'est le roseau massette. C'est le... Alors, il y a du roseau massette que je récupère à la fin de l'été et je le fais sécher. Et après, je peux l'utiliser toute l'année pour fabriquer justement les chapeaux ou les sacoches. L'avantage des roseaux, ce qui est intéressant, c'est que le saule, souvent, c'est difficile à travailler pour les gens qui ont des problèmes articulaires. Et tout ce qui est feuillage, on peut le travailler vraiment avec tout public. À la fois les jeunes, les petits et les personnes âgées.
Oui, parce que tu vis plus de la passation de savoir que tu fais, des stages, que de la fabrication d'objets, on est d'accord.
Oui, en fait, j'ai finalement plus beaucoup de temps pour fabriquer. J'adore fabriquer et j'aime beaucoup transmettre. Et c'est vrai que mêler toutes tes activités, là, le temps de fabrication, il devient assez court.
Il faut trouver l'équilibre entre les deux.
Voilà, d'où l'aubépine.
Et là, il y a quelques pots. On commence à rentrer dans le domaine des pots, là.
Ouais, tu vois, alors c'est les dernières pots que j'ai. Après, il y a toutes celles qui sont dans les poubelles, là, qui me restent à tanner. Donc ça, c'est par exemple, ça, c'est de la peau de daim.
Il y a des daims dans les forêts, ici?
Non, c'est un élevage du côté de la Charente, où que ma mère, quand les animaux se battent, et des fois, ils sont obligés de récupérer les pots. Et les pots, au lieu de les jeter, ils me les amènent.
D'accord.
Et comme ça, moi, je transforme ces pots-là pour leur redonner une nouvelle vie, quoi.
Et on voit la texture qu'on pourrait en faire un tambourin ou quelque chose comme ça, quoi. C'est, voilà. C'est à la fois souple, mais un peu cartonné.
Ouais, en fait, c'est ça. C'est semi-rigide. C'est tanné à cru. C'est-à-dire que moi, je récupère les pots, je les écharne avec une plane qu'on utilise.
Écharné,
c'est-à-dire que j'enlève la chair, les fascias, sur la peau avec un outil qui sert à écorcer le bois à la base. Je les mets sur un rondin, je les écharne. Et après, je fais des trous tous les 5 cm, tout le tour de la peau. Et je vais les tendre sur un cadre pour que, en fait, la peau soit complètement étirée et que les fibres vraiment se distendent. Une fois que ça c'est fait, j'utilise la cervelle, donc soit la cervelle de l'animal, soit une cervelle que je vais acheter si j'en ai pas, et je vais badigeonner la peau de cette cervelle.
D'accord.
Qui va permettre de renourrir la peau en phospholipides, parce que sinon la peau c'est un peu comme du carton. Et le fait de la renourrir, ça va lui donner une certaine souplesse.
D'accord.
Si je voulais une peau très très souple, je la tremperais carrément dans cette espèce de pâte à crêpes de cervelle, quoi.
D'accord.
Plusieurs fois en l'assouplissant. Et là, par contre, physiquement, c'est plus compliqué.
Et là, c'est une technique que tu as appris comment ?
En cherchant, en essayant. Et puis finalement, je me suis rendu compte que c'est un peu une technique que les Amérindiens utilisaient.
D'accord.
Pour finir, je fais des tipis et je les fume à l'écorce de chêne et de châtaignier. Voilà, comme ça permet de les rendre imputrescibles.
Donc là, on est rentré. Ah bah oui, en effet. Il y en a plein le plafond.
Voilà.
C'est chouette.
Donc il y a vraiment plusieurs techniques. Le but, c'est, moi, c'est vraiment justement d'apprendre plusieurs techniques et plusieurs savoirs au niveau des lieux où j'ai été. Donc là, par exemple, on a ce qui ressemble au tistai.
Alors le tistai, c'est le... C'est le panier.
C'est le panier des baronnies qui était fait tout en noisetier. Donc moi, ça fait partie des choses que j'ai vraiment envie de transmettre pour que ces paniers-là puissent perdurer. Comment tirer une fine lamelle sur du noisetier? Quelles sont les techniques? Parce que ça, c'était vraiment pratiqué avant.
Très joli.
Et ça l'est plus. En fait, tous les gens qui les fabriquaient sont morts, mais aujourd'hui, quoi.
Et tous les paniers qu'on trouve sur les marchés sont fabriqués en Chine ou ailleurs?
Et bien déjà, quand on voit le prix des paniers aujourd'hui et le temps qu'on met pour les fabriquer, on se dit que...
Ils sont fabriqués.
Ouais, voilà, carrément.
Ah, ils sont très bien finis. Hein. J'ai déjà vu de la vannerie sauvage. Là, tu as vraiment des objets qui sont finis. C'est très joli. Hein.
Voilà, avec des techniques un peu différentes. Et donc ça, tout ça, c'est...
Des couleurs différentes. Donc couleurs tu utilises différentes... Ouais. Ah, c'est joli.
À la fois du cornouillé, il y a du troène, il y a du saule aussi. J'essaye de mêler un petit peu.
Et l'abat-jour, c'est toi qui l'as fait?
Oui.
Ah, il est très joli, ça on en voit hein, évidemment dans les boutiques déco, mais là il a un côté beaucoup plus naturel et libre, il est très joli.
Ouais, et le but c'est justement, il n'y a pas de difficulté, c'est de rendre les gens autonomes sur des fabrications comme ça, quoi. Après, on a tout ce qui est un peu sculpture aussi qu'on va pouvoir faire avec ce qu'on va trouver. Il y a de la glycine, il y a du lierre, de la clématite.
Donc là, tu as fait une espèce d'abeille sculpture.
Voilà.
Alors, qui est quand même sur du fil de fer. Ouais, c'est
ouais,
ça.
J'ai fait, en fait, souvent, je fais une armature quand même à la base. Uh-huh. Et histoire que quand les végétaux sèchent, ils restent quand même maintenus. Et après, autour, bah, je fais de la vannerie aléatoire.
C'est très joli.
Ça, et après, on a bah, tout ce qui est un peu de tambour. Tambour. Donc ça, c'est de la peau de biche que j'ai utilisée. Et après, je fais les cadres en bois avec du merisier qui a été coupé à côté et du peuplier qui vient d'un peu plus haut que l'Anne-Mesan.
Alors, qui achète ça?
Alors ça, c'est les gens qui... Il y a des gens qui font du yoga, il y a des gens qui font de la méditation. Ça peut être aussi bah, des gens qui se connectent un peu avec la nature. Après, en fait, moi, ils viennent là. Et après, enfin, l'utilisation derrière leur appartient. Il y a, ça peut être aussi des musiciens. Il y a des musiciens okay. qui viennent.
Oui, un peu ethniques, des orchestres ethniques, ce genre de choses.
Oui, oui, mais pas forcément que. Ouais, d'accord. Non, ouais, j'ai eu des profils de musiciens vraiment dit complètement différents.
Ok.
Ouais. Rarement rappeur, tout ça.
Et là, évidemment, musique électronique, il n'y a pas.
Voilà.
On arrive au terme de cette émission avec toi, Sandy. Quel est le conseil que tu donnerais aux gens? Alors voilà, on n'est pas obligé de faire de la vannerie, bien qu'on peut venir l'apprendre, c'est intéressant de savoir faire ses pieds à panier, on n'est pas obligé de faire du tannage. Mais si on veut se reconnecter à la nature, parce que toi finalement ça a été des expériences successives, quoi. Tu as petit à petit fait des choses avec l'univers qui t'entourait, avec la nature qui t'entourait. Quel est le conseil, par exemple sur les plantes, ça c'est le truc le plus classique que tu donnerais aux gens, toi qui a maintenant, tu es jeune encore, mais avec un petit parcours.
Moi, ce que je donnerais comme conseil, ça serait de vraiment se contenter de vraiment les plantes de son propre jardin. On dit que les plantes qui poussent dans ton jardin, c'est celles dont tu as besoin. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, de se dire, ben, sur un petit carré, là, des plantes que... Se limiter d'abord aux plantes qu'on est sûr de connaître, de reconnaître, et en apprendre, en essayer d'en apprendre une par an. Mais dans sa totalité, essayer de la regarder, de la sentir, de la toucher et essayer de, si elle est comestible, si elle est utilisable évidemment, une fois qu'on est sûr de son identification.
Donc il faut quand même avoir internet ou un livre.
Non, des bouquins, ouais. Ouais. Moi pour le coup j'utilise très peu internet pour les plantes parce que je trouve que sur internet tu vas pouvoir tout voir et son contraire.
Alors comme livre, qu'est-ce que tu as comme bible?
Alors moi j'ai les deux Lachaud. J'ai les deux Lachaud, j'ai les bouquins d'identification des plantes. Et après, j'ai des livres sur l'herboristerie. Alors, il y a des vieux livres, mais je ne me contente jamais d'un livre. Ce qui est bien, c'est d'en avoir plusieurs pour essayer de vérifier même les contre-indications, de voir. Des fois, elles sont inscrites dans certains bouquins et pas forcément dans d'autres.
Oui, parce que sur Internet, on va avoir des gens très farfelus qui vont vous dire que c'est super, que ça marche, alors que ça peut être dangereux. Ce qui, en général, a été imprimé il y a quelques années, en tout cas, au début des années 2000, est en général sûr.
Ouais, ça a été en général vérifié, quoi. Et pas réédité, en tout cas, s'il y avait des grosses erreurs. Donc, au moins juste ça, et essayer de voir ben, toutes les utilisations qu'on va pouvoir en faire. Et on n'a pas, pour moi, une dizaine de plantes, ça suffit en fait. Et c'est vrai qu'on est dans une société là où on consomme beaucoup, et du coup, on a envie d'apprendre toutes les plantes. Et finalement, ben, rien qu'avec le pissenlit, il y a moyen de faire de la bannerie avec du pissenlit. Il y a moyen de se soigner, il y a moyen de manger. Tu vois,
on trouve toujours des nouvelles vertus dans des plantes très exotiques qui viennent de l'autre bout du monde, mais avec des dégâts environnementaux qui vont souvent avec. Il vaut mieux se contenter de ce qui pousse dans le jardin.
Ouais, bah ouais, on parlait de la pâquerette, toi, l'arnica, c'est pareil, il n'y en a pas dans mon jardin, mais j'ai de la pâquerette, bah, je vais pouvoir l'utiliser.
Très bien, bah, merci Sandy. Et pour ceux qui veulent te connaître, tu as un site où, qui sont dans le coin, qui viennent dans les Baronnies, là, dans les Hautes-Pyrénées, il y a un endroit où trouver des renseignements sur toi?
Alors moi j'ai un site qui s'appelle Détour Sauvage. Sur internet, et sinon je mets les actualités sur le Facebook Yoga Détour Sauvage.
Détour au singulier?
Détour au singulier,
okay.
Ouais, tout attaché.
Très bien, merci Sandy, bel été à toi.
Merci beaucoup et au plaisir.
Lancer la carotte est écoutable sur internet. À la semaine prochaine. Thank you.
RTL.
C'est sur le
99.1.
Le mix.
Y a-t-il pour votre service ?
Ici Londres, votre émission un mercredi sur deux de 17h à 18h. Venez découvrir les portraits des associations, leur histoire, leur mission, leurs projets et leurs actus. Ici Londres, un mercredi sur deux.
À quelle heure dites-vous ?
De 17h à 18h. C'est sur le 99.1 FM.
HDR.
Soul Connection.